La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
La bibliothèque de Radio-Orient avec l'écrivain, peintre et sculpteur Maï Binbin. Vous publiez Nocta, un recueil de nouvelles publié chez Orient Éditions. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors Maï Binbin, dans ce nouveau livre, nous embarquons dans un voyage à Marrakech, votre ville. On voyage aussi dans les pays que vous connaissez, notamment la France, puisque vous avez été étudiant en France. Et on retrouve tout ce qui fait la saveur et votre style, la richesse de votre imaginaire depuis vos premiers livres il y a 35 ans. Pour mémoire, on rappellera quelques titres: Le sommeil de l'esclave, Cannibale, Les étoiles de Sidi Moumen, Le fou du roi, Mon frère fantôme. Ce recueil de nouvelles, Nocta, flirte avec l'absurde, le rire, mais c'est surtout un livre plein de tendresse et de nostalgie, par exemple pour le cinéma Eden à Marrakech. À partir d'un drame, les inondations meurtrières de la vallée de l'Ourika, le lecteur s'interroge sur des notions comme le hasard, les coïncidences ou le mektoub. Vous rendez hommage aussi à Agustín Gómez Arcos, qui fut votre bonne étoile. 23 nouvelles qui sont autant de pépites. D'abord, un mot du titre Nocta.
Alors, la vérité, c'est l'éditrice qui a voulu ce titre. Moi, je voulais l'appeler... Au départ, mes histoires secrètes. Et comme le mot nocta, qui veut dire histoire drôle, est entré dans la langue française, elle me dit, écoute, nous avons un joli titre, Nocta. Et évidemment, il n'y avait plus de discussion possible, j'ai opté immédiatement pour Nocta.
Alors, vous écrivez, aucune de mes histoires n'est inventée, elles sont arrangées, parfois épicées, souvent transfigurées, jamais sorties de nulle part. Alors, ce sont des histoires que vous avez... écrites de manière disparate au fil du temps, ou bien vous les avez écrites spécialement pour les réunir en un seul volume?
J'ai écrit un dernier livre qui va sortir l'année prochaine, et j'avais une année à rien faire. Et il y avait des histoires comme ça qui traînaient dans ma tête depuis 20 ans, 25 ans. Et je me disais toujours, un jour je les écrirai. Et j'ai découvert la nouvelle, parce que je sais écrire au kilomètre, je sais écrire sur 200 pages, sur 250 pages, mais écrire une nouvelle en 3 ou 4 pages, c'est un exercice nouveau pour moi. Et je me suis vraiment entiché c'est-à-dire raconter vite une histoire. Alors pour la raconter, il faut... condenser, il faut prendre que l'essentiel, on n'a pas le droit de traîner. Et c'est vraiment un exercice qui m'a beaucoup plu. Et j'ai commencé par une nouvelle, et puis une autre, et puis une autre. Et ça a donné Nocta.
Et à titre personnel, moi j'aime beaucoup lire des nouvelles comme Maupassant, Tchekhov évidemment. Vous êtes vous-même un lecteur de nouvelles?
Oui, je lis beaucoup de nouvelles, même Flaubert, même Un cœur simple, c'est une des nouvelles qui m'a donné envie d'écrire. il y a des histoires comme ça qui m'ont... Et puis une nouvelle, ça se lit vite. Nous sommes dans une période où tout est rapide. Et donc j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à m'intéresser à la nouvelle.
Et le lecteur se régale, je vous le confirme, Maï Binbin. Alors, votre livre porte pour sous-titre « Traité du foin savant et autres ». C'est l'une des nouvelles marquantes de ce recueil. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire comment débute cette histoire autour d'un étudiant en religion qui a du mal à mémoriser le Coran et les hadiths?
Alors, mon père était étudiant à la Madrasa Ben Youssef à Marrakech, qui était l'université coranique, poésie ancienne, etc. Et un jour, il est allé voir son professeur, qui s'appelle M. Ouarzazi, qui est un grand, grand professeur de théologie, et lui a dit, je n'arrive pas à retenir vos leçons. Et le professeur Ouarzazi lui dit, si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à retenir, va manger du foin, c'est-à-dire tu es un animal. Et lui, il prend ça à la lettre, et il va à la maison, il achète du foin, il va le mélanger avec du petit lait, Et dans sa tête, il va se déclencher quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'histoire que mon père m'a racontée. Il est devenu hypermnésique. Et
C'est-à-dire qu'il retenait tout.
mais il retenait tout de façon maladive. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui s'est déclenché dans sa tête, mais d'ailleurs, comment est-il arrivé au palais pour être le bouffon de Hassan II? Il est arrivé au palais quelques années plus tard. Il fréquentait le poète Ben Brahim. Ben Brahim, c'était un poète homosexuel, alcoolique, et qui faisait le panégyrique du Pacha Glaoui du temps des Français. Le roi était déposé, donc le Pacha, c'est l'homme des Français, il avait un pouvoir incroyable. Et ce poète chantait la gloire de Glaoui. Mais ce poète-là, il sortait tous les soirs, il allait dans les bars à soldats, et mon père l'accompagnait. Pendant ce temps-là, il était saoul, et il déclamait des poèmes. Et mon père les apprenait par cœur. Il avait cette mémoire, cette hypermnésie qui était gloutonne, qui avalait tout ce que racontait le poète. Et le lendemain, au déjeuner chez le Glaoui, le poète lui disait: « Mais raconte-moi ce que j'ai dit hier. » Et mon père lui dit, il lui revendait ses poèmes. Il dit: « J'adore ta montre. Si tu me donnes ta montre, je te dirai. » Et mon père accompagnait le poète pendant toute sa vie jusqu'à sa mort. Quand la diva Oum Kulthoum est arrivée à Marrakech, il lui fallait un homme de culture pour l'accompagner pendant les 3 jours en 1967. Et mon père, pendant cette période, il lui a raconté, pendant tous les séjours, les 3 jours, il lui a raconté les poèmes de Ben Brahim. Et elle lui a dit: « Mais moi, je veux un recueil, moi, je veux chanter ce gars. Ce gars est de la dimension de Omar Khayyam, ce gars est extraordinaire. » Il lui a dit: « Mais madame, ce recueil n'existe pas. » Et donc, le jour d'après, elle devait aller chanter pour Hassan II à Rabat. Et elle lui dit: « Majesté, vous avez un poète extraordinaire qui s'appelle Ben Brahim. Je demandais un recueil. On m'a dit, ce recueil n'existe pas. Comment cela fait-il qu'un immense poète... » Et Hassan II, il avait pas mal de défauts, mais c'était un homme de culture. Ça, on ne pouvait pas lui enlever. Il était vexé. Le lendemain, il a envoyé, quand elle est partie, il a envoyé des gens chercher les gens qui connaissaient les poèmes de Ben Brahim, et il les a amenés à Rabat. Il leur a dit: « Écoutez, vous avez 6 mois pour me rassembler le recueil des œuvres de Ben Brahim. » Et mon père m'a dit: « C'est les 6 mois les plus beaux de ma vie, puisque on était deux ou trois copains et on allait faire la fête, etc. » Et 15 jours avant, on a récité et on a écrit le recueil de 500 pages. Ils le connaissaient par cœur. Ils connaissaient l'œuvre par cœur. Et quand ils sont arrivés chez Hassan II, 6 mois plus tard, ils lui ont donné le recueil. Et Hassan II a dit à mon père, parce que évidemment, Glaoui, c'était l'ennemi des Alaouites, c'était le pacha qui a déposé des rois. Il dit: raconte-moi un poème de Ben Brahim où il dénigre El Glaoui. Et mon père a dit: ce poème n'existe pas. Et quand bien même aurait-il existé, moi je ne l'aurais pas appris parce que moi j'ai grandi dans cette maison. Et c'est comme ça que mon père est devenu le fou du roi. Il l'a gardé pendant 33 ans parce qu'il a trouvé que c'était un homme fidèle. Et toute sa carrière est partie de là.
Et donc cette histoire du foin qu'il a mangé parce qu'il avait mal compris l'expression de ce professeur.
Alors le professeur Ouazzazi était un professeur tellement grand que c'est devenu le professeur de Hassan II. C'était le gars qui apprenait la théologie à Hassan II. Et puis, au bout d'un moment, il est parti chez lui. Et à un certain moment, il voulait revenir voir Hassan II et il n'arrivait plus à avoir accès au roi. Et donc, il a pensé à tout le monde, sauf à mon père, sauf à son élève, sauf au gars qui a mangé du foin. Et un jour, il est arrivé chez lui, à Rabat, et il a frappé à sa porte. Et il lui a dit: « Mais Binbin, je voudrais que tu me donnes du foin à manger parce que j'ai pensé à tout le monde sauf à toi et je veux rencontrer le roi. » Mais mon père lui dit: « Mais le roi, tu le rencontres ce soir, tu le rencontres demain. » Et c'est ainsi qu'il y a eu ce foin savant. C'est comme ça que il a pu avoir accès à Hassan II.
Alors, autre nouvelle qui m'a beaucoup marqué, Maï Binbin, celle qui porte sur une maison mystérieuse. Sans jamais donner de leçons, sans jamais vous mettre au-dessus de vos personnages, Vous nous amenez à réfléchir sur les apparences et les faux-semblants. Vous nous racontez votre ville Marrakech avec les légendes qui l'entourent, les histoires qui courent sur la couleur ocre de ses murs, sur l'origine de la palmeraie, sur la nécessité de ne pas se presser quand on vient dans la ville rouge. Vous êtes toujours émerveillé par Marrakech. C'est une des sources d'inspiration de vos livres, de votre travail de peintre aussi.
Tous mes livres démarrent à Marrakech. Parce que Marrakech, c'est une ville de légende. Mais vraiment, c'est une ville de légende. Au Marrakech, on ne dit pas la ville est rouge parce que des peintres en bâtiment ont repeint les murs. On dit le jour où on a planté le minaret de la Koutoubia au cœur de la ville, elle a tellement saigné qu'elle a répandu cette couleur ocre omniprésente. Voilà, on vit de légende. Vraiment, les gens, ils ne te disent pas que la palmeraie a été plantée par des sédentaires. Non, c'est des nomades qui sont passés par là, ils ont jeté des noyaux et la palmeraie est née. Voilà, Marrakech vit de légende. Moi, quand j'étais petit, je traversais la place Jemaa el Fna tous les jours. Et je m'arrêtais souvent à la ronde du compteur. Et c'était exceptionnel. Le compteur, les histoires. Moi, je crois que je suis l'enfant du compteur avec ma grand-mère. En fait, c'est ceux qui m'ont appris les histoires. Et le compteur de Jemaa el Fna, je restais des heures. Des fois, je n'allais pas à l'école. J'étais fasciné parce qu'il racontait les histoires de Antar. Antar, c'est un paladin aux multiples vertus qui défend la veuve et l'orphelin. Et il nous racontait les histoires d'Antar. Moi, tout ça est dans ma tête. Évidemment, de temps en temps, il promenait sa sébile pour ramasser un peu d'argent. Et quand il avait pas, on lui donnait pas assez, eh bien, il mettait Antar en prison. Et il disait aux gens, je vous raconte la suite demain. Les gens ne le laissaient pas partir. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer Antar passer la nuit en prison. Et il ressortait son bol, il tournait. Et quand il avait suffisamment d'argent, c'est là où il libérait Antar. Il y avait toujours une manière de libérer Antar qui allait rejoindre Abla parce qu'il avait une amoureuse qui s'appelle Abla. Antar et Abla, il allait sur le monde Guélise et il retrouvait Abla, la brune aux yeux noirs. Moi j'ai grandi avec ces histoires.
Et de la même manière, Maï Binbin, vous évoquez le cinéma de votre enfance, le cinéma Eden à Marrakech, où parfois le film s'arrêtait au milieu de l'histoire. Et il y avait une émeute dans le cinéma.
Ah oui, ah oui.
Et il fallait que le responsable du cinéma raconte la fin.
C'était
une des conditions pour que les spectateurs se calment un peu.
Des fois, ils peuvent arracher les fauteuils. Et c'est vraiment la révolution au cinéma. Et puis, ça arrivait à un moment où on voulait savoir. Les gens voulaient savoir la suite. Et il y avait toujours un gros bonhomme qui venait sur la scène et qui racontait la fin de l'histoire. Nous sommes dans le vieux cinéma italien, là. Et le cinéma, qui est fermé aujourd'hui, et vraiment, c'était en Médina, ça s'appelait le cinéma Eden, rien que le nom, Eden.
Vous écrivez que l'arrivée des étrangers dans la Médina de Marrakech est une bénédiction du ciel. Vous ajoutez même qu'ils ont fait renaître la ville. Le tourisme n'a pas fait perdre son âme à votre ville?
Pas du tout, pas du tout. Vous savez, chaque lit dans une maison d'hôte occupée par un étranger, chaque lit fait nourrir une famille. Ah, donc je dis aux gens, mais arrêtez la poésie, arrêtez de dire que Marrakech va perdre son âme, parce que les gens ils te disent à Marrakech, il faut avoir un visa pour aller en Médina, tellement elle est occupée par les étrangers. Mais les étrangers ont reconstruit la Médina. Ça, je vous assure que c'est la vérité. Moi, j'ai grandi là. Quand il pleuvait, on a la boue jusqu'aux chevilles. Il y avait les égouts qui étaient ventrés. Ça sentait pas bon. Les maisons tombaient en ruine. C'est-à-dire, les Marrakechis de souche ne voulaient plus aller. C'est-à-dire, quand tu avais un peu d'argent, tu quittais la Médina pour aller en ville nouvelle. Ça, c'était un signe. Donc, quand les étrangers sont arrivés, ils ont vu la splendeur des riades. Ils ont reconstruit. Ils ont mis des salles de bain dans les riades. Nous, on n'a jamais eu de salle de bain. C'est-à-dire, on allait au hammam une fois par semaine. Donc, ils ont donné de la vie à la Médina. Et moi, je suis très, très content qu'il y ait ce métissage. Parce que, et même l'artisanat marocain, qui est un artisanat ancestral, il s'est beaucoup, beaucoup amélioré avec les designers européens. Et il c'est mieux fini. C'est... Non, moi, je trouve que l'étranger apporte toujours plus. Ça, c'est ma conception du monde. Évidemment, il apporte sa culture, il apporte son savoir-faire. Il apporte... Et donc, la Médina de Marrakech, je crois qu'il y a eu une renaissance. Et maintenant, les riches sont en train de revenir en Médina. Les nantis, ils découvrent les plafonds de cèdre peint, ils découvrent la beauté de la Médina, parce que c'est très très beau.
Beaucoup de belles choses à lire dans ce très beau recueil de nouvelles. Nocta, traité du foin savant et autres, de Maï Binbin, chez Orient Éditions. C'est un livre qui fait du bien, où la joie et la tendresse sont communicatives, un livre qu'on a envie d'offrir aux gens que l'on aime. Merci, Maï Binbin, d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient.
C'est moi qui vous remercie.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.